Bonjour chers amis auditeurs, notre balade des églises et des chapelles du Lot nous fait aller aujourd'hui à l'église d'Arcambal. Alors nous sommes dans l'église d'Arcambal et je suis en présence de belles personnes également. Donc je salue tout de suite Thérèse Péguin. Bonjour Thérèse.
Bonjour.
Alors Thérèse, est-ce que vous pourriez juste nous dire le rôle que vous jouez dans la communauté d'Arcambal ?
Eh bien, je suis habitante d'Arcambal, je suis paroissienne et je suis responsable un petit peu de la paroisse pour Arcambal. Donc je fais le relais entre les paroissiens et puis notre prêtre.
Très bien, donc vous êtes, comme nous étions à Saint-Cyrus la semaine dernière, vous êtes relais de la communauté d'Arcambal. Nous sommes en présence également de Christian Verdun. Bonjour Christian.
Bonjour.
Alors Christian, votre rôle un petit peu au niveau d'Arcambal et notamment de cette église d'Arcambal.
Historien, peut-être. Non, je ne suis pas vraiment historien, je suis amateur d'art, dessinateur, sculpteur. Mais dans cette église, avec mon ami Gilles Chevriot, on a décidé, c'est moi qui lui ai demandé, justement, de faire un reportage un peu exhaustif sous la forme d'un livre de cette église. On a essayé de regarder, comme tous les paroissiens peuvent le faire, tout ce qu'il y a dans l'église, comment elle a été faite, ses dimensions, son plan n'existait pas. Avec Gilles, on a fait le relevé et on a produit un livre en quelle année ?
2009,
voilà.
Alors voilà, vous nous parlez de Gilles, alors nous présentons Gilles Chevriot, qui venait d'être présenté rapidement par Christian. Donc bonjour Gilles.
Bonjour aux auditeurs de Radio Présence.
Mais tout à fait. Et surtout Gilles, vous avez donc accompagné Christian, vous avez un autre rôle ou d'autres activités au niveau de la paroisse ou tout au moins d'Arcambal ?
Alors d'Arcambal, je n'ai pas d'activité officielle, je suis de temps en temps paroissien, je l'ai été peut-être un peu plus il y a quelques années, peut-être moins maintenant, mais la vie fait que effectivement les choses ne sont pas toujours tracées dans la même dimension. J'ai répondu effectivement à la demande de Christian, sachant que cet ouvrage, il y a un certain nombre d'années, devait peut-être être amorcé par André Salvage, d'ailleurs dont on rend hommage dans l'ouvrage dont on parlera peut-être durant l'émission, et qui était prof d'histoire et habitant d'Arcambal, membre de la Société des études du Lot, parce qu'il faut aussi la citer puisqu'on en parle aussi dans l'ouvrage, et qui aurait très bien pu, avec Christian, réaliser cet ouvrage dont je suis l'éditeur.
Ah voilà, d'accord. Donc vous avez quand même un rôle très 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 précieux pour la finalisation de l'ouvrage. Et je salue bien sûr Marie-Madeleine, ma consœur, dans cette émission. Bonjour Marie-Madeleine.
Bonjour Martine.
Comment
bonjour
allez-vous aujourd'hui ?
Tout va bien. Bon. Le soleil, tout va bien.
Ah ben écoutez, c'est parfait. Donc chers auditeurs, l'église d'Arcambal. Nous allons commencer tout de suite par l'historique avec les différentes dates, les différentes époques. S'il en est question, avec Christian. Christian.
L'église, si on observe beaucoup de détails, on voit tout de suite qu'elle est de la fin du XVe siècle. Plein de détails architecturaux. Et ce qui est intéressant aussi, c'est pour ça qu'elle m'a intéressé en tant qu'église, là, c'est qu'elle est très homogène. Elle n'a pas eu de reprise dans l'architecture au XIXe siècle, au XVIIIe, au XVIIe, etc. Donc, elle est en très bon état. Les toitures ont été refaites il n'y a pas très longtemps. Le clocher aussi avec les abat-sons. L'ancien maire a bien conservé cette église. Et je pense qu'elle est intéressante à observer. Alors, dans les archives, on n'a pas trouvé énormément de choses. Et avec Gilles, nous avons établi, en le mesurant avec vraiment beaucoup de précision, les dimensions de l'église. Elle a un plan en croix latine avec deux grandes chapelles et deux autres petites chapelles, dont l'une est la sacristie. Donc on a établi les hauteurs, les largeurs, les profondeurs, etc. Donc on a établi un plan avec, c'est simple, trois grands carrés, dont l'un est surmonté par le clocher, qui est énorme par rapport au volume de l'église. Il fait même un peu massif lorsqu'on le voit de loin. Mais son plan est très simple et très intéressant à dessiner. Voilà.
D'accord. Et donc, l'église est bien tournée vers l'est, comme la majorité des églises. Toutes ne le sont pas, mais comme la majorité des églises. D'accord. Donc, vous nous parliez de différentes époques. Je rajoute juste une petite question. Est-ce que vous avez quelque chose au niveau, ou une information au niveau de la cloche, ou des cloches?
Oui. Ah. Ça, c'est un détail, quand même.
Enfin, oui, mais très important.
C'est important. Il y a deux cloches, une grande et une petite. Alors, je sais pas quelle est la note de chacune. Mm-hmm. Simplement, nous avons connu, et Thérèse aussi, là, l'un des parrains. Et qui m'a donné, j'en parlerai peut-être après, de précieuses informations, notamment sur un petit peu l'évolution de l'intérieur de l'église. Alors,
oui.
Il s'appelle André Bordon, il est décédé il y a quelques années, et il est le parrain d'une des deux cloches. Il y a un parrain et une marraine pour chacune.
Tout à fait.
Les trois autres personnes, je les connais pas. Mais lui, je l'ai connu. C'est lui d'ailleurs qui m'a dit, il est inscrit sur la cloche, parce qu'on était allé ausculter finalement les combles au-dessus des croisées d'ogives. Et donc les cloches sont bien attachées, la charpente est en bon état, il n'y a pas de
donc
bête.
Vous nous rassurez. C'est très bien. C'est très bien. Donc nous entrons dans cette église par la petite porte qui se trouve côté sud. Là je mets toujours mon bras droit en me disant oui, c'est bien le côté sud. Et tout de suite, personnellement, en tant que tout à fait candide dans cette émission, en allant chercher et en allant prendre du gel hydroalcoolique, comme il est de bon ton maintenant dans toutes les églises, j'aperçois sur la gauche, en rentrant, un immense tableau. Alors, déjà, l'époque, qu'est-ce qu'il représente? Est-ce que vous pourriez, Christian ou Marie-Madeleine, nous en dire deux mots? Nous le présenter.
C'est le plus grand des tableaux. Il n'est pas à son endroit d'origine.
D'accord.
Alors justement, André Bordon, dont j'ai parlé tout à l'heure,
oui,
m'a donné un renseignement sur une question que j'arrivais pas à élucider. Si on regarde sur le chevet, qui est un chevet plat.
Oui. Donc qui est en face du tableau, donc qui est dans le cœur, voilà.
Du tableau, voilà. On voit en dessous du grand vitrail qui n'est pas très ancien. On en reparlera peut-être après, là.
Oui.
Vous voyez que la fenêtre du vitrail, en fait, a l'air d'avoir été raccourcie.
Oui.
Il y a une partie du dessous, et je m'étais longtemps demandé pourquoi est-ce qu'il y avait cette différence entre les pierres de droite et de gauche. D'ailleurs, il y a aussi les mêmes pierres à gauche, là, dont j'ignore un petit peu pourquoi elles sont comme ça.
Mm-hmm.
Mais alors, le vitrail, voilà. André Bordon m'a donné des indices. Lui non plus comprenait pas exactement toute l'histoire. Alors, il m'a dit que le grand tableau dont on veut parler,
oui,
qui est un tableau du XVIIe siècle, et il est répertorié au monument historique, il est en très mauvais état, donc il demanderait à être restauré. L'un des autres tableaux a été restauré, celui-là n'a pas été restauré.
Oui, on en parlera effectivement
son
tout à l'heure.
Son sujet, c'est voilà, on voit le Christ en croix avec Saint Jean et sa mère, on voit Saint Antoine à gauche et une carmélite à droite. Donc c'est lié à l'histoire de l'Église. Voilà. Alors ce tableau-là figurait, c'est André Bordon qui me l'a dit, il était accroché sur le chevet plat.
Voilà, d'accord, en voilà. Face.
J'ai essayé, c'est une hypothèse, de reconstituer un petit peu ce qui s'était passé. L'autel qui est face aux fidèles maintenant,
oui,
ça n'est pas l'autel d'origine qui était là.
D'accord.
Cet autel-là faisait partie de l'autre. Pardon.
Oui, dans une des chapelles qui se trouve à droite,
chapelles,
oui, tout à fait.
Cette partie-là était sur cet autel-là.
D'accord.
Et l'autel était sur cette chapelle sud, sud.
D'accord.
Tout l'autel d'origine, qui était dos aux fidèles, était contre le mur, et ce tableau était au-dessus. Alors, ce que j'ai un peu conclu, c'est que l'orifice du... Enfin, le trou, si vous voulez, dans
oui,
le mur,
l'ouverture, oui,
ce trou là, était sûrement, à l'origine, un vitrail du XVe siècle, qui a disparu, qui a été détruit, etc. On ne met pas un grand tableau comme ça devant un vitrail.
Mmh.
Donc, pour pouvoir installer ce grand tableau, on a dû raccourcir sûrement la fenêtre, et ensuite le vitrail qui est du XXe siècle a été refait. Donc, il a fallu diminuer finalement cet espace pour le vitrail.
D'accord. Par rapport au tableau. Mais ça se voit un petit peu, là. On l'aperçoit un petit peu dans le...
Donc le tableau était dessous, sous le vitrail.
Le tableau devait être, c'est ce que m'a dit André Bordon. Parce qu'il l'a connu, lui. Il a connu le tableau d'accord. à cet endroit-là.
Voilà, sous le vitrail.
C'était difficile de le deviner.
Bon. D'accord. Alors, Marie-Madeleine, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous avons une belle description par Christian. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu plus de détails sur ce tableau ?
Eh bien, c'est une crucifixion.
Oui, crucifixion,
hein,
tout à fait.
Christian nous l'a dit.
Sur les couleurs, peut-être.
Alors, les couleurs, oui, elles sont un peu affadies, là, hein, parce que le tableau a souffert. Il a dû subir un vernissage au XIXe siècle qui a assombri le tableau, hein, et qui l'a épaissi, disons, hein, voilà. Donc les couleurs, eh bien, Saint-Jean est habillé en rouge, qui ressort bien du tableau, et en face, la Vierge Marie également a une robe rouge, ce qui est un peu rare, mais quand même, ça signifie aussi la souffrance de la Vierge, hein, et vu le sacrifice de son fils. Elle a un manteau bleu, et ensuite, eh bien, il y a les deux autres personnages qui sont... Saint Antoine de Padoue à gauche, hein, avec sa tonsure de franciscain, et puis à droite une carmélite. Alors ça, on y reviendra peut-être après.
Oui.
Parce qu'il y a un autre tableau qui parle d'une autre carmélite.
Donc on en parlera dans une autre chapelle. Voilà.
On garde
d'accord.
Le suspense.
Très bien. Alors voilà, nous avons décrit ce tableau que nous avons sur notre gauche, et lorsque je tourne la tête, je vois le cœur. Comme tout un chacun, un cœur magnifiquement éclairé en pierre. Alors là aussi, sur ce cœur, Christian, qu'est-ce que vous pouvez nous apprendre ?
On peut revenir, si vous voulez, au mur et aux nervures.
Oui, tout à fait.
Je vous ai parlé tout à l'heure que c'était daté du XVe siècle.
Oui.
À la fin du gothique, on s'aperçoit quand les églises suppriment finalement les chapiteaux. Et on voit le départ des colonnes engagées à partir du bas. On voit la décoration qui est typiquement fin XVe, début XVIe.
Oui.
Et qui se poursuit vers le haut. Et les arcades, si vous voulez, les croisées d'ogives se font directement dans la foulée. Vous voyez qu'il n'y a pas de chapiteaux nulle part.
Donc,
on a un cœur qui est carré, comme les deux autres travées qui se trouvent... on les a bien mesurés. C'est vraiment... même en largeur, la largeur est égale à la profondeur. On a vraiment quatre carrés. Donc c'est un cœur plat, comme on en trouve finalement assez souvent dans le Lot.
Absolument.
Et ce qu'on voit aussi, c'est la niche où on retrouve la même décoration. La niche.
Alors cette niche se trouve dans le fond, le mur qui se trouve à l'est. Elle se trouve à droite et derrière, bien sûr, l'autel.
Oui, elle devait se trouver un peu, légèrement cachée, mais pas complètement quand l'autel était à cette place-là. D'ailleurs, on voit sur le carrelage la trace où devait,
oui, vous
voyez,
absolument.
La décoration.
Absolument, ça fait comme un tapis, oui, effectivement.
Voilà, un petit peu l'emplacement de l'autel, voilà. Donc, on voit une arcade en os de panier qu'on retrouve sur la porte de la sacristie avec des entrelacs qui est la partie qui est la plus séduisante, si vous voulez, dans ces choses-là. Alors, on retrouve déjà le début de la Renaissance, vous voyez, l'anse de panier en accolade. Non, je dis anse de panier, c'est une erreur. Hein. C'est en accolade qu'on retrouve sur ces deux parties-là, la niche du fond et la porte de la sacristie. On a les bases des colonnes, vous voyez, qui ressemblent aux bases des colonnes de l'église elle-même. C'est une marque sculpturale un petit peu de polygone, en fait. Le cylindre ne se poursuit pas, ou le carré, si vous voulez. Donc, on a une note stylistique qui indique bien l'époque, là, voilà.
D'accord.
Là, c'est clair.
Tout à fait.
Et de l'autre côté, alors, la chapelle du château.
Oui.
Alors là, j'ai des choses un peu croustillantes
oui.
à raconter
très bien.
Sur la chapelle.
Gardez tout ça pour tout à l'heure, Christian.
On a les bois et côtés, là, qu'on retrouve dans pas mal d'églises du Quercy, qui donnent un petit peu la note régionale. Voilà.
D'accord. Alors, dans ce chœur, moi, je vois tout de suite... trois vitraux, et notamment le vitrail dont vous avez parlé tout à l'heure en commençant par rapport au tableau qui se trouve en face. Marie-Madeleine, sur ce vitrail, que pouvez-vous nous dire comme explication, ou tout au moins description ?
Eh bien, cela représente le Sacré-Cœur, le Sacré-Cœur, donc le Christ qui est habillé de blanc, tout à fait dans la partie supérieure du vitrail, il est auréolé d'un rayonnement doré et il ouvre les bras pour accueillir les paroissiens et les villageois et il a son cœur sur la poitrine, le cœur rouge, hein, lui aussi rayonnant. Voilà. Alors, autour de lui, au centre du vitrail à peu près, nous avons la Vierge Marie à droite et Saint Antoine à gauche, qui est à genoux, les mains tendues et le visage tendu vers le Christ. Et en dessous, eh bien, nous avons un couple de villageois, donc une dame habillée d'un joli corsage rouge et d'une jupe rayée bleu et blanc, qui prie, elle aussi est à genoux. Et l'homme à droite est debout et il tient, il a une faucille, je pense, à la ceinture et il tient son chapeau respectueusement devant lui. Et il y a un petit enfant à côté de la dame, un petit enfant qui est aussi à genoux, est-ce une fille ou un garçon, il a les cheveux mi-longs, hein, voilà. Et donc au fond, entre les deux personnages du couple, on voit le village. Le village, l'église sans doute de d'Arcambal, et devant des gerbes qui sont le fruit du travail des hommes.
Voilà, tout à fait, qui est d'ailleurs dit dans la prière eucharistique. Ce tableau, nous ne parlons plus du tableau, mais de ce vitrail, Christian, a été donné par quelqu'un de la paroisse ou quelqu'un, donc qui est Madame Marie-Antoinette.
À travers le nom de, alors la dame qui est marquée là, Monsieur et Madame Marie-Antoinette Lacroux-Lacoste, baronne de Goutte. C'est la, ça doit être la maman ou la grand-mère de la baronne qui est toujours vivante, voilà, qui est propriétaire du château, qui se trouve derrière nous. Alors, la famille des barons, c'est ça qui est assez. Donc, elle a financé l'existence de ce vitrail,
oui,
etc.
Oui.
Dans le livre qu'on a réalisé avec Gilles. J'ai fait apparaître tous les écussons avec leur signification. Et il y en a un que je n'ai pas trouvé, et Madame la Baronne me l'a reproché quand on lui a offert.
Elle
m'a dit, mais enfin, Monsieur Verdun, vous avez oublié, ce sont nos armes. Alors, les armes des deux gouttes, si vous voulez, ici, figurent sur le vitrail. Le vitrail
qui se trouve donc à gauche de ce vitrail. Voilà. Effectivement, oui, on le voit bien.
Alors, je connais pas le vocabulaire héraldique pour définir un petit peu les questions, mais ce sont les armes de la famille de Goutte, donc propriétaire du château. Vous voyez, l'écusson rouge avec...
Oui, tout à fait.
Peut-être que Marie-Madeleine...
Marie-Madeleine, est-ce que...
C'est pas féru, non, mais le fond est rouge, donc ça s'appelle De Gueule, en héraldique.
Ah, voilà, d'accord. Et il y a donc un lion de chaque côté.
Il y a des lions affrontés.
Et une couronne.
Voilà, une couronne de baron, sans doute, probablement.
Oui.
Et puis, donc le fond rouge est parsemé de trois petits éléments, mais je ne les distingue pas, là, ici, j'ai pas assez bonne vue. Je ne sais pas ce que sont ces trois petits éléments qui sont identiques. Et qui sont argentés.
D'accord. On pourrait dire éventuellement, peut-être des fleurs de lys, peut-être. Mais ça n'a pas forcément la forme.
Des voiles de bateau.
Je vois ce que c'est, mais je ne sais pas le nommer. Voilà.
Alors, comme nous sommes sur ce vitrail, nous reviendrons sur le château après. Marie-Madeleine, vous pourriez nous le décrire. Hein. Il est très joli.
C'est un vitrail à fond grisaille. Et qui est segmenté par une sorte de guirlande dorée. Qui court sur le fond, et tout autour il y a un entourage de fleurs et feuillages jaunes et verts sur fond rouge.
D'accord. Une précision sur ce vitrail, Christian.
Donc dans le cœur, deux vitraux.
Oui, qui se font face.
Du 19e siècle que vient de définir.
Oui, Marie-Madeleine.
Et le vitrail qui est dans le fond du chevet, là, lui, est beaucoup plus récent. Il est assez moderne. D'ailleurs, le style nous donne tout à fait le style de l'entre-deux-guerres, que beaucoup de paroissiens ont dû connaître la mise en place de ce vitrail, qui avait été abîmé par un orage sur la partie basse et c'est avec Alain Crenier, avec qui j'ai travaillé pendant un moment, qui a fait la réfection. Toute la partie basse était cassée, donc il a été restauré, disons, un peu avant qu'on ait fait le livre, disons, il y a une quinzaine d'années.
D'accord.
À peu près.
Mmh. D'accord. Oui, Thérèse.
Je voudrais rajouter que l'image de l'église qui est là, c'est celle du début du XXe, avant qu'on enlève l'auvent qui abritait la porte sud.
D'accord.
Les paroissiens, quand ils sortaient, ils avaient l'auvent pour s'abriter du
mauvais temps.
Ah oui,
d'accord, d'accord. Un petit peu comme à Bégousse, l'église de Bégousse. Voilà, très Bégousse, bien.
Mais quand la restauration a été faite, il a été décidé d'enlever cet auvent pour lui donner de nouveau l'allure qu'elle avait avant.
D'accord.
Et voilà.
Donc, très intéressant.
Là, on a l'image de...
Oui, effectivement, parce que quand Marie-Madeleine vient de nous décrire que c'était l'église d'Arcambal, je me disais, mais il y a un élément qui n'y est plus, enfin, que je ne vois plus. Gilles, oui, quelques précisions.
Oui, je voulais ajouter, par rapport à la compréhension et la lecture des vitraux, ainsi que d'ailleurs tout le mobilier dont certainement vous avez parlé après, c'est que nous avons eu dans ce travail avec Christian le concours de la classe photographie du collège Saint-Étienne, à qui nous avons proposé, on va dire, un travail grandeur nature. Donc les élèves accompagnés de leurs enseignants et du matériel professionnel complété par les échafaudages qui ont été mis en place par la municipalité nous ont permis de photographier chaque élément, c'est-à-dire de nous élever dans ce lieu et de prendre les photos bien en face de chaque objet à photographier, ce que l'on retrouve effectivement dans l'ouvrage, et il est toujours possible, grâce à Internet, de compléter un ouvrage pour apporter, au fur et à mesure des années et des connaissances, des compléments, et par exemple, de décrire de manière complète ces armoiries de la famille du château. Voilà, donc c'est quelque chose qui est important, c'est d'avoir une trace, mais qui peut être ensuite améliorée.
Oui, et c'est vrai que les traces, on les a de plus en plus dans la mesure où nous avons les réseaux sociaux, actuellement Internet, où on peut peut-être arriver à trouver un peu plus de renseignements. Alors donc, dans ce chœur, il y a un autel qui est juste devant nous. Marie-Madeleine, est-ce que vous pourriez nous dire les trois représentations qui se trouvent à même le...
Oui, sur l'antépendium.
Voilà.
Le devant d'autel.
Donc, je vous laisse dire le mot parce
au
que...
Au centre se trouve le Christ, assis, en majesté, on peut dire. Alors, il est assis sur un trône qui paraît être de marbre, mais enfin, l'autel est en bois. Et en bois doré, avec des fonds façon marbre noir. Et donc le Christ est assis sur son trône et il ouvre les mains vers le bas pour accueillir le paroissien et le fidèle. Voilà. Et de part et d'autre, donc nous avons deux anges qui sont sur des petits nuages de roses, on dirait presque des roses. Hein, voilà. Donc deux anges. Ils n'ont pas d'instrument. Si l'un a la couronne d'épines à gauche et l'autre à droite le calice. Voilà.
Très bien. Christian, est-ce que vous pourriez apporter d'autres précisions sur cet autel?
Oui, un peu récente d'ailleurs. Bon, c'est un autel du 19e siècle, voilà. Avec du bois doré et peint, que nous avons fait restaurer, parce que toute la base, à force de nettoyer, vous voyez l'estrade ici,
oui.
Toute la base avait souffert et certaines parties dorées avaient souffert. Donc c'est Christian Schmitters qui habite en face,
oui.
Là,
oui,
à Savanac, là. Qui a emporté, il était venu, il a dit non, on peut pas restaurer sur place. Ils ont emporté tout l'hôtel dans leur atelier et toute la restauration a été faite. Disons, il y a même pas une vingtaine d'années. Vous voyez, il est en parfait état.
Ah, tout à fait, tout à
donc,
fait,
il est
très
bien,
beau.
Est bien restauré.
Très, très beau.
Les dorures sont rectifiées, etc. Et surtout la partie basse qui avait souffert. Mm-hmm.
Voilà, bah écoutez, chers amis auditeurs, nous terminons cette première émission à Arcambal par ce magnifique hôtel du 19e, si j'ai bien entendu Christian. Donc je remercie Thérèse, Gilles, Christian et Marie-Mad. Et merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission dans l'église d'Arcambal. Nous n'avons pas terminé, il y a beaucoup de richesses. Au revoir, chers amis auditeurs.